Je rappelle le thème de ce nouveau cycle, donc qui va nous préoccuper toute l'année. Le thème, c'est une question qui est celle qu'on reprendra donc pour le banquet d'été, selon le parti pris que j'ai maintenant depuis quelques années. Donc la formulation, c'est ce qui nous est étranger. Ce qui nous est étranger. Donc la séance d'aujourd'hui, on va essentiellement s'attacher, ça va être une séance d'introduction, s'attacher à poser les termes de la question, à baliser le terrain, à montrer les enjeux qui sont sous-tendus par cette question, ce qui nous est étranger. Cette question, elle découle en fait assez directement, assez logiquement, de ce qui était en creux et qui affleurait au cours des deux dernières années, et notamment des deux derniers banquets, qui étaient plus sur le nous, le collectif, la communauté. Et ce qui est apparu, ce qui apparaît déterminant, c'est que le nous, on va le voir, le collectif, la communauté, dessine, et on a du mal à se sortir de cela, à la fois en pensée pratiquement, dessine une espèce de clôture, de territoire plus ou moins clos, qui se définit par rapport à un extérieur. Un extérieur qui est en opposition avec l'intérieur et un extérieur qui renvoie à ce qui n'est pas nous. Donc qui renvoie aux autres, qui renvoie à l'étranger sous toutes ses figures. Donc le problème dans lequel on est pris, dont je dis tout de suite que c'est une impasse, dont il faudra tenter de se sortir, c'est que toute la pensée, en tout cas occidentale, et depuis au moins la philosophie grecque, on y reviendra, est basée sur des couples d'opposition, intérieur-extérieur, dedans-dehors, même et autre, identité-altérité, on reviendra sur ce terme, et tout fonctionne selon ces couples d'opposés, et donc autochtones-étrangers. Alors ça se décline, on verra, de différentes façons et partout, même localement, ça se décline, souche, piboule. Piboule, c'est un terme occitan qui désigne au fond un champignon parasite du peuplier. Donc ça en dit long sur la représentation de l'autre, de l'étranger. De façon pratique, comme de façon plus théorique, plus philosophique, plus conceptuelle, toute la pensée occidentale, mais qui s'est instillée dans les mentalités, fonctionne sur ces couples d'opposition qui créent une espèce de dialectique infernale qui, au fond, empoisonne la façon de concevoir une relation, un rapport positif, non embarrassé entre ce qui est de l'ordre du nous et de ce qui est de l'ordre de ce qui n'est pas nous. Pourquoi ça crée une dialectique infernale? C'est qu'il y a une espèce de tourniquet sans fin qui est que comment définir ce qui n'est pas nous, ce qui n'est pas dedans, ce qui n'est pas l'identité, ce qui n'est pas l'autochtone, ce qui n'est pas le souche? Comment le définir par rapport à l'autre? Toute la question est là, c'est qu'au fond, c'est toujours un rapport négatif. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui n'est pas, on le définit par ne pas. Donc ça revient à la fameuse dialectique qu'avait travaillé Sartre, par exemple, dans L'être et le néant. L'être et le néant, c'est-à-dire l'être et le non-être. C'est-à-dire que ce qui n'est pas nous, ce qui n'est pas moi, l'étranger, l'autre, l'extérieur, va toujours être défini par ne pas, c'est-à-dire le non-être. Donc l'autre, autrui par exemple, c'est ce qui n'est pas moi, ou c'est ce qui n'est pas nous. Mais en même temps, à tout niveau de réflexion, de pensée, on se rend compte que pour définir au singulier le moi, ou pour définir au pluriel le nous, on a besoin de le confronter à ce qui n'est pas moi, à ce qui n'est pas nous. Donc il y a une solidarité dans ce couple, dans cette série de couples d'opposition. Il y a une solidarité, de fait, qui est que le « nous », l'identité, le « moi », le « dedans », pour se définir, a nécessairement besoin de se déterminer par rapport à ce qui est extérieur, ce qui n'est pas. Et j'y reviendrai un peu après, rapidement, à titre d'exemple. Les travaux des anthropologues ou des ethnologues le montrent parfaitement cela. C'est l'identité d'un nous, par exemple, d'une communauté villageoise, ne se définit en définitive que par ce qui lui est extérieur et ce qui n'est pas elle. Dans les discours, dans les mentalités traditionnelles, il n'y a pas d'autre définition, en réalité. Donc, on est pris dans une espèce de tourniquet où les deux notions, ce qu'on appelle une dialectique, où les deux catégories d'opposition apparemment très définies sont en même temps totalement solidaires l'une de l'autre. Dans L'être et le néant, par exemple, Sartre dit ceci qui illustre parfaitement le problème. Pour obtenir une vérité quelconque sur moi, il faut que je passe par l'autre. Pour obtenir une vérité quelconque sur moi, il faut que je passe par l'autre. L'autre est indispensable à mon existence, aussi bien d'ailleurs qu'à la connaissance que j'ai de moi. L'autre est indispensable à mon existence, aussi bien d'ailleurs qu'à la connaissance que j'ai de moi. Et ça, cette phrase, on peut la mettre au pluriel, c'est le même problème. Alors, cette dialectique de l'être et du non-être, du moi et d'autrui, de nous et des autres, de l'autochtone et de l'étranger, est une impasse parce qu'en réalité, elle ne peut construire, encore une fois, qu'une représentation, qu'une idée par le négatif de l'autre. Dans l'histoire politique ou sociologique des sociétés occidentales, ça s'est traduit par le fait que le rapport à l'étranger est toujours problématique et il ne peut se penser que comme triomphe ultime de l'identité, triomphe ultime du même. C'est-à-dire, il ne peut être pensé que comme retournement de la dialectique, c'est-à-dire que l'autre est englobé par le même. L'autre doit être assimilé au même. C'est toute la perspective de ce qu'on appelle l'assimilation. Assimilation, l'assimilation de l'étranger, je rappelle ce que c'est. L'assimilation, ça vient du latin similis, qui veut dire ressemblance, mais qui veut dire le même, fondamentalement. Similitude, ça a donné le mot en français qui est plus directement clair. Similitude, ça veut dire qu'en gros, c'est le même. Donc l'assimilation, c'est le mouvement par lequel l'autre, l'extériorité, est ramené au même. Or, cette opposition entre même et autre est une opposition qui est pourtant liée à la vie, liée au mouvement. Donc vous comprenez que si on est dans une pensée dialectique qui ramène l'autre au même, on est dans une pensée qui tue le mouvement et le mouvement de la vie même. Alors, une des illustrations de cela, et on va y revenir très largement, c'est par exemple quand on définit par rapport au moi l'autre comme un alter ego. Alter ego, en latin alter c'est autre, ego c'est moi. Donc l'alter ego c'est un autre moi, ce qui veut dire que on le ramène à moi, à moi-même. Et toute la question c'est comment justement on peut penser autrui non pas comme un alter ego, mais en lui gardant ce caractère d'irréductibilité de l'autre, de l'altérité. En effet, le couple même autre, si on y réfléchit bien, est à la base de toute connaissance humaine. Donc ce n'est pas qu'un problème de relation, c'est un problème de rapport au monde. Fondamentalement, c'est la différenciation entre le même et l'autre qui permet la connaissance humaine du monde. Si on est dans une vision complètement indifférenciée, où tout est confondu, réfléchissez à cette expérience qu'on peut faire. On est dans cette confusion généralisée uniquement sur un registre de sensations immédiates, mais on ne peut pas construire une connaissance. Toute connaissance suppose donc de différencier, de distinguer les uns des autres, les éléments pluriels que nous percevons ou les idées qui nous viennent à l'esprit. Il y a une nécessité de différencier, de distinguer, pour pouvoir construire une connaissance. Mais on peut l'appliquer d'un point de vue plus psychique ou psychologique à la relation humaine, c'est pareil. La connaissance que l'on peut avoir de l'autre suppose, requiert que l'on ne soit pas dans la confusion, dans la fusion avec l'autre. Un rapport fusionnel est nécessairement une impasse, parce que dans un rapport fusionnel, il y a une identification totale, une projection totale de l'un à l'autre, qui ne permet pas d'avoir une connaissance de l'être de l'autre. Donc, séparer, différencier, distinguer est une opération mentale qui est nécessaire pour, justement, avoir une connaissance du monde, des autres, des éléments. C'est d'ailleurs ce qu'avait parfaitement compris le brave Descartes, ce penseur, ce philosophe français, mais qui a vécu aussi longtemps en Hollande parce qu'il n'était pas trop admis dans la société française telle qu'elle était, monarchie catholique de l'époque, hein, c'est le XVIIe siècle. On dit couramment que Descartes, c'est français, point. C'est pour ça que je signale qu'il a vécu longtemps en Hollande, ce n'est pas tout à fait la France, et ce n'est pas le catholicisme français, le Pays-Bas, c'était quand même le protestantisme. Et on dit que les Français sont cartésiens. On a fait de Descartes et la pensée de Descartes une espèce de nature française. Ce qui est absurde, la pensée de Descartes, ce qu'on appelle le cartésianisme, s'applique aujourd'hui au mode de pensée occidental, européen et plus largement occidental dans son ensemble. Par exemple, les méthodes scientifiques sont nécessairement cartésiennes. Je rappelle qu'une des bases de la méthode cartésienne, quand on a affaire à un objet réel complexe, pour pouvoir l'analyser et donc avoir une connaissance, il faut le découper, par l'opération de l'esprit, en autant d'éléments simples qui le composent. Donc, c'est bien ça sa méthode. Il faut distinguer chacun des éléments d'une totalité complexe. Les distinguer pour ensuite les identifier et voir quelles sont leurs relations, leurs rapports. Eh bien, je vous mets au défi de montrer qu'il y a une quelconque science moderne qui ne fonctionne pas sur cette méthode-là. Précisément, les lois scientifiques en physique, dans tous les domaines, quels que soient, en biologie, les lois scientifiques consistent précisément à établir un rapport constant, selon certaines conditions, entre les éléments simples qui composent une réalité. L'approche systémique, dans quelque domaine que ce soit, consiste à établir des rapports, des relations entre des éléments qu'on a décomposés au départ. Après, c'est la nature des relations, c'est-à-dire que Descartes est une époque où on a une pensée mécanique, que la pensée moderne, à travers les sciences, y compris la philosophie, remet en cause le mécanicisme, si j'ose dire, pour montrer que c'est beaucoup plus complexe, dynamique. D'ailleurs, c'est aussi à travers l'évolution des sciences et de la physique qu'on est passé à la thermodynamique, etc. On n'a plus eu la même pensée. Et effectivement, aujourd'hui, l'approche systémique de la complexité montre que les relations au sein d'un système et qui forment d'un système ne sont pas des relations mécaniques. Mais il n'empêche que la base de la méthode reste la même. Il y a un philosophe sociologue qui a pas mal étudié la complexité, pour ceux que ça intéresse, qui a forgé le terme, c'est Edgar Morin. Edgar Morin a écrit presque toute sa vie sur ce qu'il a appelé et ce qu'on appelle avec lui la complexité, quoi, les systèmes complexes. Ce qui remet plus en cause, peut-être aujourd'hui, la méthode de Descartes, c'est peut-être tout ce qui vient, notamment à partir de l'étude de l'infiniment petit, par exemple, ou de l'infiniment grand, c'est tout ce qui intègre et admet dans les lois scientifiques de la connaissance, admet qu'il y ait de l'incertitude, qu'il y ait de l'indéterminé. Mais là, ça nous entraîne pour le moment ailleurs, et du coup, je ne fais que le pointer, mais sans le développer maintenant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on admet qu'il y a de l'indéterminé dans les systèmes qui composent les éléments de la réalité. Alors, sauf à penser que justement, l'indéterminé renvoie à ce qu'on pourrait appeler le nom de Dieu. Le nom de l'absolu, de l'infini, des séparés et dont on n'a pas accès. On peut considérer que l'indéterminé renvoie à cette question-là, en tout cas l'inconnu. Et vous savez notamment ce mathématicien américain du début du XXe siècle qui a vraiment posé les bases d'une épistémologie, c'est-à-dire d'une philosophie des sciences en rupture, c'est Lorentz. C'est un mathématicien américain qui a tiré profit des premiers systèmes informatiques. C'était des armoires immenses, pour imaginer une application sur la météo, la prévision du temps. Et il a introduit des paramètres dans son ordinateur en nombre très important, susceptibles de déterminer le scénario du temps qu'il va faire. Et donc, une fois qu'il a rentré tous ces paramètres, la machine développe un scénario du temps, donc il va pleuvoir ou autre. Très bien, et il trouve que ça fonctionne a priori. Et pour vérifier, il recommence l'opération, il rentre à nouveau les mêmes données. Et donc le scénario qui se déroule à partir de là semble être le même, commence par être le même, et peu à peu, il y a un écart, un écart, un écart, et ça aboutit au final à un scénario de temps complètement différent que la première fois. Or, il ne comprend pas parce qu'il a rentré les mêmes paramètres. Donc normalement, les mêmes causes produisent les mêmes effets, et là, ce n'est pas le cas. Donc il ne comprend pas pourquoi. Et en fait, en revérifiant tout, il se rend compte que la zone foie, il a introduit une erreur infinitésimale, une erreur, comme on dit, epsilonienne. Hein. Epsilon, c'est la lettre grecque qui symbolise justement l'infiniment petit. Et que c'est ça qui a abouti à une divergence complète dans le phénomène prédit. Et c'est là qu'il a cette fameuse formule que tout le monde connaît, mais souvent on ne sait pas l'origine, l'effet papillon. Il en conclut définitivement qu'on ne peut pas prévoir le temps. Et sa formule est très poétique, je me souviens approximativement. Quand au-dessus d'un lac d'Australie, un papillon bat de l'aile, ça va provoquer un ouragan sur la côte ouest des États-Unis. Donc c'est-à-dire qu'une variation infinitésimale peut provoquer des phénomènes de grande ampleur. Et donc c'est le point de départ de cette réflexion qui fonde une nouvelle épistémologie des sciences, hein, c'est-à-dire une nouvelle philosophie des sciences, qui est qu'au fond, cet infiniment petit que les mathématiques traditionnelles ramènent à zéro. Toutes les mathématiques traditionnelles ont eu besoin de ramener à zéro. Vous savez d'ailleurs, on doit encore apprendre ça à l'école en mathématiques quand 1 sur l'infini égale 0. Sauf que ce n'est pas vrai. On ramenait à zéro dans un système fini, mais aujourd'hui, on ne peut plus le penser comme ça. Mais si on ne ramène pas 1 sur l'infini à zéro, alors ça veut dire qu'on est obligé de penser une mathématique, donc une épistémologie des sciences qui introduisent de l'incertitude. Donc c'est ce que certains appellent par exemple le modèle du chaos, le modèle mathématique du chaos. Là où on en est, on voit ces couples d'opposition infernaux qui créent une espèce de dialectique, de tourniquet sans fin qui au fond assimile toujours l'autre dans le même. Ça rejoint la formulation très scolaire de la dialectique hégélienne, thèse, antithèse, synthèse. On a toujours appris ça à l'école. C'est ça que ça veut dire. La synthèse, c'est le mouvement par lequel l'antithèse, c'est-à-dire ce qui n'est pas la thèse, ce qui n'est pas l'être, est finalement récupéré, absorbé dans un dépassement qui aboutit à produire du même. Donc on est vraiment dans ce système de pensée à ce point-là que d'ailleurs, scolairement, c'est ce qu'on apprend largement. Sauf que tout ça repose sur le fait que ces deux systèmes de catégories sont parfaitement définis, stables et étanches. Entre l'être et le non-être, c'est parfaitement défini avec une frontière clairement établie. Aujourd'hui, et c'est la piste que je proposerais de creuser, eh bien, ce n'est pas si simple que ça. Et je dirais que c'est le mouvement de pensée de la modernité à partir de la fin du 19e qui amène à remettre en cause ces couples d'opposition. D'une manière très symbolique, je prononcerai un nom qui n'est pas du tout un penseur, mais qui est un poète, mais c'est d'autant plus fort, c'est Rimbaud qui dit « Je est un autre ». Cette phrase qu'on emploie souvent aujourd'hui, on n'en mesure pas nécessairement toute la portée. Je est un autre, cette phrase introduit une rupture décisive. C'est-à-dire qu'entre le moi et l'autre, eh bien, il y a circulation, interpénétration, au sens où le moi ne serait pas une espèce d'être, d'identité homogène, d'être homogène, complètement différencié de ce qui lui est extérieur. Je est un autre, c'est-à-dire qu'il y a de l'autre en moi. Et ça ouvre une perspective de pensée du rapport à l'autre, du rapport à l'étranger, possiblement différente. Je dis possiblement parce que le moulin dialectique peut réabsorber ça dans le même. Quelques étapes qui, après le geste de Rimbaud, marquaient cette pensée différente du rapport à l'autre, l'autre étant dans le même et au sens où il y a de l'autre dans le même, et du coup du même dans l'autre, on le verra aussi. Freud a été un moment important, il faut reconnaître, et la psychanalyse plus largement. Freud s'est beaucoup intéressé, ça l'a même obsédé, à la question de l'étrangeté de l'étranger. C'est d'ailleurs une formule de Freud. Ça a une influence considérable, même au-delà du champ de la psychologie et de la psychanalyse, dans le champ de la philosophie, dans le champ de la poésie. Le surréalisme s'appuie complètement sur un jeu sur ces questions-là, de l'interpénétration entre l'autre et le même. Un nom beaucoup plus récent, aussi que je signalerai, c'est Michel Foucault, le philosophe français, donc, qui a eu une très grande importance dans les années 70, 80 et encore aujourd'hui. Michel Foucault, par exemple, va complètement, de ce point de vue-là, repenser la question de la folie, du fou, notamment dans un fameux livre qui est « La folie à l'âge classique ». Parce que dans ces couples d'opposition, on pourrait ajouter une autre variation qui est normal-fou. Normal-folie. C'est de même nature. Et Foucault montre comment la folie est une représentation de l'autre qui se construit, qui n'est pas basée sur des éléments, entre guillemets, naturels, des éléments de nature, mais sur la construction d'une représentation sociale liée à une évolution de la société au XVIIe. Le XVIIe, c'est-à-dire que ce que Foucault appelait l'âge classique, pouvant être pensé comme une période de mise en ordre de tout. Et la mise en ordre suppose de créer un monde basé sur des catégories parfaitement définies et séparées les unes des autres. Et il montre comment naît, s'invente la catégorie du fou, avec la naissance aussi de la clinique, de l'hôpital général, etc. L'hôpital général, l'invention de l'hôpital général au XVIIe est quelque chose qui est passionnant à étudier parce que ça nous fait réfléchir sur beaucoup de choses dont on n'est pas totalement éloigné aujourd'hui. L'hôpital général, c'était ces lieux de grand renfermement, comme disait Foucault, c'est une expression de Foucault, le grand renfermement, où on retranchait de la société ce qui n'était pas le même et qui apparaissait comme menaçant la société. Donc, dans l'hôpital général, on mettait aussi bien ceux qu'on considérait comme fous, mais aussi les malades, mais aussi les gueux, les errants, les vagabonds, les pauvres, mais aussi les enfants orphelins. C'était un grand fourre-tout qui mêlait tous ceux qui étaient identifiés comme non réductibles au même et de coup susceptibles de menacer l'ordre de la société. On pourrait montrer, mais on y reviendra autrement et plus tard, que dans l'histoire de l'Europe, la figure du juif concentre particulièrement cette question-là et que l'aboutissement, c'est évidemment Auschwitz, la Shoah. C'est-à-dire qu'il y a un antisémitisme, et c'était celui du Moyen-Âge, qui est un antisémitisme, disons, religieux, strictement religieux, qui ne s'assimile pas tout à fait à ce que je viens de dire. Ou en gros, ça repose sur une interprétation des textes fondateurs qui vient à dire que les Juifs, c'est un peuple déicide. C'est-à-dire que c'est eux qui ont tué Jésus. Et Jésus s'avérant être le Fils de Dieu et donc Dieu pour les chrétiens. Au Moyen-Âge, c'est cette catégorie qui prévaut. Par la suite, va naître une autre forme d'antisémitisme qu'on peut appeler un antisémitisme moderne, qui est plus basé, construit sur la question de l'inassimilation de ce qui va rester être pointé comme irréductiblement autre par rapport aux cadres mentaux et sociaux de la société moderne, et notamment peu à peu avec l'invention de l'État-nation. Donc on n'est plus forcément sur le même terrain. Alors, même si les choses ne sont pas en rupture, c'est d'ailleurs ce qu'on peut reprocher à la pensée de Michel Foucault, mais il faut le prendre d'un point de vue méthodologique et pas au pied de la lettre. Il a une vision de l'histoire qui est parfois un petit peu trop nette, trop tranchée, c'est-à-dire que découper des périodes caractérisées par un système de pensée commun, ce qu'il appelle l'épistémé, et que ce serait une périodicité en discontinuité quasiment les unes des autres. Et du coup, ça amenait à penser quelque chose qui n'admettait plus qu'il y a dans l'histoire des formes de continuité, de permanence. Donc on peut lui reprocher ça. Donc effectivement, l'antisémitisme du Moyen-Âge, chrétien, on peut dire qu'il a persisté jusqu'à aujourd'hui. Mais il n'empêche néanmoins que s'invente avec la modernité une autre forme. Il faut se garder d'une morale bien pensante. Au sens, il ne faut pas renverser la vapeur simplement en disant « il est bien d'aimer l'autre, d'accepter l'autre ». Il faut aussi intégrer que l'autre, on ne peut pas ne pas le penser pour une part comme cela, n'étant pas moi, dérange l'ordre du même. L'autre dérange, comme l'inconnu dérange, comme l'étranger dérange, effectivement. Mais si on en restait là, ça se ramène à fonder une morale et une société uniquement sur, je vais reprendre les catégories de Rousseau, on ne s'en sépare pas, sur le fait que l'être humain a un seul ressort qui est l'instinct de soi, l'instinct de conservation, ou comme disait Spinoza, le conatus, ce qui veut dire la même chose, c'est-à-dire le désir de persévérer dans son être même, le désir d'être le même et de ne pas être menacé. Ça, ça aboutit à ce qu'on a vu l'an dernier, la philosophie de Hobbes, qui nous fonde largement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, par rapport à cela, on en tire comme conclusion, l'homme est un loup pour l'homme. C'est-à-dire que l'autre étranger est forcément une menace. Et donc, il faut un système social qui nous protège du dérangement, voire du danger de l'autre. C'est aussi Hegel, la dialectique de Hegel, qui est le plus abouti dans ce jeu circulaire entre le même et l'autre. On la lit dans La phénoménologie de l'esprit, qui est un livre difficile, mais qui est décisif. Hegel imagine la scène de deux individus qui se retrouvent face à face. Hegel ne peut pas imaginer autrement cette scène que sur le mode « l'autre qui me regarde est une menace pour moi », mais une menace de mort. Du coup, il décrit cette espèce d'affrontement des regards qui est l'affrontement des consciences entre l'un et l'autre, affrontement des regards qui est l'affrontement des consciences, et il n'imagine pas d'autre issue qu'une issue dialectique, qui est que l'un va triompher, va imposer son être à l'autre, et l'autre n'aura pas d'autre choix s'il ne veut pas être anéanti que de s'assimiler au premier. Et c'est de là que découle chez Hegel, cette philosophie de l'histoire qui est la dialectique du maître et de l'esclave. Il y a des maîtres, il y a des esclaves. L'esclave, c'est celui qui, dans l'affrontement de l'un et de l'autre, c'est celui qui, dans cet affrontement, a eu peur de la menace de l'autre et a eu peur de perdre la vie. Et du coup, qui dit « je te donne ma liberté en échange de ma vie ». Il devient esclave. Le maître, c'est celui qui a eu le courage d'affronter jusqu'au bout la possibilité du non-être, la mort, et qui, du coup, a pu triompher de l'autre en l'absorbant. Ça devient le maître. Mais où c'est une dialectique infernale, c'est que Hegel explique que l'esclave n'a plus rien à perdre, s'endurcit dans sa condition d'esclave, et va se révolter. Donc la scène se rejoue, et un temps après, et que dans la réitération de la scène, l'esclave qui n'a rien à perdre, qui n'a même pas sa liberté et sa vie à perdre, qui n'a rien à perdre, va triompher du maître qui a tout à perdre et qui s'est ramolli, et donc renversement, et c'est sans fin. C'est de cela qu'il s'agit et qu'il faut casser, et c'est sûrement Hegel qui a formalisé le mieux cette dialectique du maître et de l'autre infernal. Donc voilà, si on ne considère que le ressort du conatus, de l'instinct de soi, du désir de soi, pour parler comme Rousseau, on est dans cette impasse. C'est-à-dire que l'histoire est une éternelle répétition du maître et de l'esclave, au fond. Donc, on est bien obligé, si on a le désir de penser les choses autrement, de considérer, et c'est là que Rousseau, encore une fois, est d'un secours précieux, de considérer que dans l'être humain, il y a peut-être aussi un autre instinct, un autre ressort, et l'autre instinct que Rousseau évoque, c'est ce qu'il nomme le désir de l'autre. Ou, en termes plus anciens, plus archaïques pour nous, l'instinct de pitié. L'instinct de pitié, mais le terme est problématique pour aujourd'hui, parce que tout de suite, on va être renvoyé à la morale bien-pensante. Mais l'instinct de pitié, chez Rousseau, c'est fondamentalement un autre ressort de l'humain, que l'instinct de soi, un autre ressort qui est un désir de société, un désir d'autre, un désir d'accueil de l'autre. Et on est bien obligé de penser ça, et c'est précisément ce que toute la philosophie d'Emmanuel Lévinas, qu'on a vaguement abordé la dernière séance le soir, et sur lequel cette année on se penchera beaucoup plus longuement, parce que précisément, Lévinas, c'est le penser à l'autre. Toute sa philosophie peut se résumer avec cette formule, le penser à l'autre, qui est le titre d'ailleurs d'un de ses livres. Donc certes, l'autre est un dérangement, l'autre est gênant, l'autre n'est pas comme soi, il trouble l'ordre du même, mais on est obligé de prendre une décision qui est de ne pas en rester là et de considérer qu'il y aurait une positivité De l'autre, même s'il est un ennemi possible, même s'il est une menace possible, même si, plus simplement, il est un dérangement possible. C'est une nécessité de le penser si on veut échapper, au fond, à la dialectique du maître de l'esclave, qui est une dialectique de mort, au final. Mais surtout, surtout, on est obligé de résister à cette inclinaison parce que, alors là, je vais au-delà de Foucault, en considérant deux, trois autres auteurs contemporains, les biologistes et toute la philosophie issue de la biologie est obligée de penser le fait que le vivant, par exemple un organisme vivant, le corps humain ou tout organisme vivant, ne peut vivre, ne peut persister dans la vie que si le système que constitue cet organisme vivant intègre le principe de ce qui dérange son ordre. Et je pense en particulier à ce livre remarquable que j'avais déjà cité d'Henri Atlan, qui est un biologiste, médecin biologiste, Henri Atlan, A-T-L-A-N, tout simplement, qui a un très beau titre, très poétique, qui s'appelle « Entre le cristal et la fumée », où il montre, à partir de la biologie, qu'il y a deux systèmes de mort, deux logiques de mort, c'est la logique du cristal ou la logique de la fumée. Les deux sont des logiques de mort. Le cristal, c'est le triomphe du même où tout autre a été rejeté. Le cristal, ça symbolise quoi? Ça symbolise l'état de la matière le plus pur, le plus transparent et le plus solide. Il a dit cristal, mais l'aboutissement du cristal, c'est, en termes géologiques, c'est le diamant. Donc le cristal peut représenter un idéal, parce que c'est homogène, c'est une structure totalement homogène, une structure de transparence totale, parce que c'est une structure qui obéit à un ordre figé, fixé, c'est-à-dire au triomphe du même. Il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas de matière extérieure dans le cristal. Et ce que montre Atlan, c'est que ça, c'est une logique de mort. C'est une logique d'un corps mort, et le cristal de roche ou le diamant, c'est l'état d'aboutissement de l'évolution géologique et minérale. Par contre, à l'inverse, il montre comment la fumée, qui symbolise l'état de la matière complètement désorganisé, désordonné, c'est aussi une logique de mort, c'est-à-dire que ça échoue. Pour qu'il y ait du vivant, il faut qu'il y ait quand même une forme, comme aurait dit Platon, qui se fixe à un moment donné. Une forme, c'est-à-dire des relations stables au sein d'un même système. Donc la fumée peut symboliser le fait qu'il n'y a que de l'autre intrusif qui fait échouer toute principe du même, c'est-à-dire tout principe de persistance, d'identité. Mais ça, on peut après le décliner de différentes façons. À un niveau individuel, ça peut être nommé la folie ou un état psychiatrique totalement désordonné, de perte de toute possibilité d'identité. C'est une maladie mentale poussée à son principe extrême. C'est une société, un collectif qui échouerait complètement à instituer quelque forme de rapport social qui puisse être stable. Donc, ça peut ressembler à des épisodes que l'histoire des sociétés connaît, à un état de guerre civile totale. Et ce que montre Atlan, c'est qu'un organisme vivant qui se maintient en vie, c'est celui qui est dans un état qui sait instaurer une dynamique, un mouvement qui n'est ni de l'ordre du cristal, ni de l'ordre de la fumée, c'est-à-dire qui accueille comme positivité des éléments étrangers en lui qui le maintient dans le vivant. Par exemple, l'hygiénisme est une logique de cristal. L'obsession, par exemple, de l'hygiénisme américain qui est une phobie de tout ce qui est corps étranger, par exemple des bactéries, des microbes, des virus, etc., aboutit à une logique de mort. Au contraire, ce qui fait que le vivant se maintient comme vivant, du point de vue d'un corps humain, c'est qu'il accueille constamment des bactéries, des microbes, et qu'au contraire, c'est des éléments extérieurs qui remplissent une fonction utile et, je dirais, nécessaire au maintien du corps vivant. Et c'est tout le travail d'un Jean-Claude Milner de montrer que le monde contemporain est porté par une tendance à ce que tout se réduise à de la masse, au grand nombre, qui est une collection de choses. D'où le triomphe que j'évoquais déjà, de seule approche de l'humain collectif, qui est la statistique, par exemple, comme collection de choses. Bon, mais effectivement, ça se raccroche à la même problématique, cela. Alors, le problème, c'est que, et c'est quelqu'un qui est, je cite comme ça encore un autre nom, je cite des noms sur lesquels on reviendra, quelqu'un qui est une psychanalyste, linguiste, philosophe, qui est la compagne de Philippe Solers, qui est Julia Kristeva, a bien approché dans un livre sur le racisme et la xénophobie qui s'appelle Étrangers à nous-mêmes, au pluriel, donc étrangers à nous-mêmes. Et ce qu'elle montre dans ce livre, c'est qu'au fond, tout phénomène de rejet de l'autre, de l'étranger, du racisme, xénophobie, toutes les formes que ça prend, fondamentalement renvoie à une structure mentale et sociale qui reste sur l'idée que l'autre, la dimension de l'autre, on va appeler ça l'altérité, est dangereuse, menaçante, doit être évacuée. Et que, par exemple, on ne peut pas accueillir ce qui est inconnu en soi. C'est la peur de l'inconnu, en fait. Et qu'on ne peut pas accueillir l'inconnu en soi. C'est-à-dire la part du je est un autre de Rabault, que ça fait peur et qu'on l'évacue. La question de l'homophobie participe de cela. La question de la folie et du rejet de celui qu'on va considérer comme anormal, c'est cette logique-là. Et on a d'autant plus peur du fou, entre guillemets, qu'on sent une zone où soi-même, c'est pas clair, on commence à prendre conscience que je ne suis pas moi-même. C'est-à-dire qu'entre moi, le moi et le soi, il y a un écart. Or, être moi-même, ce qui signifie l'identité. Je rappelle toujours, identité, c'est idem, ens en latin. Idem, c'est même, et ens, c'est le participe présent du verbe être. Identité, c'est l'état d'être le même. Le problème, c'est que le moi, c'est la conscience d'un sujet individuel parlant. Et le moi entretient un rapport, ben on retrouve Descartes, mais ça complexifie Descartes, hein, un rapport à son être, qui est ce que les philosophes vont appeler le soi. Donc il y a moi et soi. Et l'idéal de l'identité, c'est qu'il y ait une superposition complète entre moi, c'est-à-dire ma conscience, mes représentations, mes images, et ce que je suis, le soi. Le problème, c'est qu'entre moi et soi, il y a nécessairement un écart. Et cet écart, c'est de l'inconnu. Cet écart, c'est du trou d'être. C'est-à-dire, à l'évidence que le sujet, c'est un trou d'être. Parce que le sujet, être un sujet parlant, conscient, pensant, n'est possible que dans l'écart entre moi, c'est-à-dire ma conscience, et mon être. Qu'il y a une séparation, une distance. La folie peut être le fait qu'il y a dissociation totale. Donc, le problème, c'est que moi, je ne suis jamais soi. Je ne coïncide jamais avec le soi. Ça, c'est la grande conscience de la philosophie, de la pensée et de l'individu contemporain. Étranger à moi-même, c'est cet exercice mental, ce travail sur soi qui fait qu'on soit hospitalier avec le fait qu'en moi, il y a de l'autre. C'est-à-dire que le soi n'est pas moi-même. Le soi n'est pas moi-même. Alors, dans cette affaire, il y a une dimension importante qui permet de le percevoir. C'est ce que Lévinas a magnifiquement montré. Donc Lévinas, je vous rappelle, c'est ce philosophe contemporain qui est mort en 90, 11, et qui était né en 1996, qui est le grand penseur justement de la question de l'autre et de ce que philosophiquement on peut appeler l'altérité. Alter en latin, je vous rappelle que ce n'est pas un exercice d'haltérophilie, mais c'est autre. Et c'est ce à quoi invite Julia Kristeva. Kristeva, je rappelle, c'est Kristeva. C'est qu'il faut apprendre à être hospitalier avec ce qui n'est pas le même dans son être. Ce qui fait que je ne suis pas moi-même. Il faut apprendre à être hospitalier, c'est-à-dire accueillir cela. L'hospitalité, c'est une notion sur laquelle on reviendra par rapport à l'étranger, c'est une notion essentielle. C'est un des sens du mot grec philia, philia, on le transcrit comme ça, la philia, qui vient du verbe philein, qu'on peut transcrire philein. Philein, c'est aimer. Et donc la philia, on va le traduire rapidement par amour, d'où le fait que philosophie, on le traduit par philo-philia, hein, philaine, et Sophie, Sophia, la sagesse. Donc l'amour de la sagesse, c'est plus compliqué que ça. Mais philia était un mot central dans la philosophie grecque et même dans la cité. Une des dimensions possibles de philia, une des significations, c'est l'hospitalité. L'hospitalité de l'étranger. Ça a à voir avec la sagesse, c'est-à-dire avec la pensée, entre nous soit dit, parce que penser, c'est travailler, c'est ce qui suppose d'accueillir, sur ce qui nous est inconnu. Et le contraire de la pensée de ce point de vue-là, c'est l'idéologie. L'idéologie, c'est un système d'idées fermé sur lui-même, qui tend à s'homogénéiser dans une vision parfaitement lisse et cohérente et close du monde, et qui rejette à partir de là tout élément d'étrangeté ou d'extranéité. Là, une précision, parce que étrangeté, c'est intéressant en français. Étrangeté en français désigne ce qui est étrange. Pour désigner ce qui est étranger, normalement, le terme, c'est extranéité, le terme adéquat. Souvent, on le mélange, à juste titre, encore faut-il mélanger une fois qu'on a séparé. On revient à la même question. Donc, la philia, comme la pensée, donc comme la sagesse, suppose l'accueil, l'hospitalité avec ce qui est inconnu, étranger, qui n'est pas du déjà là et assimilé. Et l'idéologie, c'est une non-pensée au sens où c'est une pensée qui s'est figée, qui s'est close dans un tout homogène et qui n'est plus poreux, qui n'est plus perméable à ce qui vient de l'extérieur. Mais ça rejoint aussi la fameuse approche de Kafka. Kafka, c'est un auteur qu'on peut mettre au centre d'une pensée de l'accueil de l'étrangeté. Et tous les grands écrivains, en fait. Kafka, en fait, dit la même chose que ce qu'a dit Proust. Pour écrire, il faut avoir un rapport à sa langue maternelle, donc la langue du même, comme si c'est une langue étrangère. C'est la même idée. Pour créer dans la langue, c'est écrire autre chose que passe-moi le sel, c'est la langue convenue de la vie quotidienne qui est nécessaire. Mais créer avec la langue, c'est écrire de la poésie, c'est forcément prendre une distance par rapport à ce système linguistique, à la langue, qui n'est plus qu'un outil de communication, qui correspond au même. Et donc, cette distance, c'est ce qui rend la langue étrangère. C'est-à-dire prendre la langue comme une langue étrangère. C'est pour ça d'ailleurs qu'au XIXe siècle, beaucoup de grands poètes, par exemple français, se sont mis à traduire des textes en langue étrangère, en français, sans quasiment connaître la langue en question. Par exemple, c'est Edgar Poe par Baudelaire, etc. Et ça donne des résultats très intéressants. On pourrait l'aborder parce que ça a à voir avec la question de l'étranger, le rapport à la langue étrangère. Bien, on pourrait montrer que traduire, c'est faire un travail d'accueil d'une altérité dans son système du même. Et donc, c'est forcément un acte de création. Ce n'est pas un acte mécanique de transposition. D'ailleurs, on voit bien que fondamentalement, ce qui est rassurant, tous les systèmes par informatique de logiciels, de traduction, échouent. Mais même sur des choses simples, parce que ça reste dans l'homogène. Mais même dans le langage communicationnel, qui est du langage d'homogénéisation, on voit que ça coince plus d'une fois. Donc, la traduction pose ce problème-là. Alors, j'ai évoqué rapidement la littérature, je citerai quelques noms d'écrivains contemporains qui ont été les acteurs et les témoins de cette conscience nouvelle du rapport du même et de l'autre. Évidemment, on ne peut pas ne pas citer Camus, Albert Camus, et en particulier alors l'étranger. Et l'étranger, c'est bien la question de l'étranger à soi-même aussi. Le fameux Meursault de l'étranger, c'est tout le programme étranger à nous-mêmes que développe Julia Kristeva, au fond. Je citerai aussi Samuel Beckett. Beckett, dont la figure de l'étrangeté, de l'inconnu de l'autre, peut se résumer à la question, je le dirais rapidement et du coup approximativement, d'un Dieu absent. Et Dieu, si on veut bien considérer que c'est l'autre par excellence, on y reviendra avec l'évidence. Tout le théâtre et la littérature de Beckett, c'est cette question. Mais pensez simplement en attendant Godot. En attendant Godot, je rappelle que Godot, c'est le nom de ce personnage qui ne vient jamais, c'est God, Dieu en anglais. Et que Godot ne vient pas. Je citerai également Kafka, que j'ai déjà nommé. Voilà, c'est des figures de la littérature contemporaine qui incarnent, traduisent, expriment parfaitement cette problématique. Alors, j'ajouterai pour finir ce premier mouvement ceci, c'est que comme souvent, ce qu'on annonce comme nouveau, caractérisant notre période moderne, contemporaine, ne l'est pas. Ne l'est pas, mais le problème, c'est qu'on avait oublié ou dévié, dévoyé une vieille pensée, et c'est Platon, et le Socrate, personnage des dialogues de Platon. Parce qu'en réalité, tous les livres de Platon, et on commencera par cela la prochaine fois, par l'étranger chez Platon, il y a un paradoxe. La philosophie occidentale jusqu'au XXe siècle, au fond, a fait comme si Platon, ce qui n'est pas faux non plus, c'était une pensée de l'être et donc du même. Une pensée qui ne voyait que le même. Et l'être défini comme le même. Et qui évacuait complètement l'altérité. Même Lévinas, d'une certaine manière, se laisse aller à dire ça de Platon. Sauf que on avait complètement recouvert, passé sous silence, oublié, le fait que dans plusieurs dialogues de Platon, vous savez, il y a toujours ce personnage qui est Socrate, qui est à la fois le personnage historique et aussi le personnage inventé par Platon. Et c'est indécidable. Il y a eu pas mal de travaux qui ont permis de progresser un peu sur la connaissance du rapport entre le Socrate inventé par Platon dans ses livres et qui est son personnage central et le personnage historique de Socrate. Il y a un écart, mais ce n'est pas pour autant que le Socrate de Platon n'ait rien à voir avec le Socrate historique. Donc, je disais qu'il y a plusieurs dialogues, c'est-à-dire plusieurs livres. Chaque dialogue de Platon fait l'objet d'un livre qui met en scène différents personnages. C'est un peu comme un théâtre. Je rappelle ça pour ceux qui ne se sont pas plongés dans Platon. Le Socrate, dans plusieurs de ses livres, évoque souvent le fait que ce qu'il dit à ses interlocuteurs, ce n'est pas vraiment lui qui le dit. Ce qu'il dit, il le dit parce qu'il est poussé par ce qu'il appelle son daimon. D-A-I-M-O-N. Ça se transcrit comme ça. Daimon. On ne va pas l'aborder maintenant, vu qu'on va s'y intéresser par la suite. Simplement, quelques mots. Daimon, vous entendez quoi en français? Démon. C'est le même mot, hein? On peut traduire souvent le daimon par « mon Dieu ». Ou pas mon génie, le mot est ambigu en français, génie. Donc il y a des traductions qui disent génie, mais ce n'est pas très satisfaisant. C'est plutôt des traductions anciennes. C'est cette espèce de voix intérieure, mais qui n'est pas moi, mais qui m'habite, le daimon. Donc c'est quoi? C'est de l'étranger, c'est de l'autre. Donc vous voyez que dans la philosophie de Platon, le personnage central sur qui tout repose, qui est Socrate, dit lui-même qu'il y a de l'autre en moi, et qu'en fond, il dit déjà « je suis un autre ». Il dit déjà ce que 24 siècles plus tard, Rimbaud va dire. C'est la vanité, parfois, de la pensée. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que le rapport dans l'histoire de la pensée européenne et occidentale, jusqu'au XXe siècle, et encore aujourd'hui, très largement d'ailleurs, la pensée qu'on a eue, le rapport qu'on a eu à la pensée de Platon, consistait à évacuer cela, à le laisser dans l'ombre. On ne peut pas le reprocher parce que toute lecture, et c'est ça qui est passionnant, toute lecture d'un texte qu'il soit, est une lecture qui est comme un projecteur qui, dans l'obscur d'un texte, un projecteur orienté de certaines manières, éclaire une partie du texte et rejette dans l'ombre une autre partie du texte. C'est comme si, dans la nuit, vous lisez une page avec une petite lampe électrique. Ça dessine un cercle lumineux que vous lisez et le reste va être jeté dans l'ombre et carrément sur le bord le plus extérieur du faisceau dans l'obscurité totale. Et toute lecture est nécessairement cela. Il ne faut pas s'insurger contre ce fait-là. C'est logique et c'est très heureux. Ça veut dire que toute lecture est une invention, une création du sujet lecteur. C'est ce qui explique que pour les grands textes, en tout cas, c'est infini. On peut toujours lire, relire, et on va tirer toujours autre chose. C'est que tout dépend, c'est à la Renaissance qu'on a inventé en peinture, enfin en dessin, la perspective. Tout dépend du point de vue où l'on se place, qui dessine les lignes de fuite, et qui organise la réalité qu'on observe selon une certaine dynamique. Mais si on déplace le point où on se situe, le point de vue où on se situe, on aura une autre vision. C'est ça l'invention géniale de la perspective, encore une fois, à la Renaissance, qui est une invention propre à l'Europe. C'est que la perspective, c'est une façon de dire que dans le regard qu'on porte sur le monde, intervient inévitablement le sujet, la subjectivité de chaque moi. Et ça rejoint la question initiale. Voilà, donc à partir de là, c'est un constat qu'il faut faire, mais pas s'insurger contre. On a lu Platon et cette question de Socrate jusqu'en gros aujourd'hui, même si ça commence à changer depuis un certain nombre de décennies, comme un Socrate qui évacuait la question du daimon, qui était embarrassante. Non pas qu'on n'avait pas vu qu'il y avait ça dans les textes de Socrate, mais en gros ce qu'on disait, c'était des scories, parce que dans la Grèce, il n'y a pas que le logos. Dans la Grèce antique, il y a encore les théogonies, les mythes, toutes les pensées, donc des mystiques en fait, les oracles chaldaïques, etc., qui sont des systèmes de pensée, et il y a des textes qui sont connus de Platon. Toute la mystique égyptienne est présente. Donc, c'est entouré à Athènes et dans la cité grecque, en général. Il n'y a pas que le logos, la pensée construite, qui est présente. Il y a donc tout ce qu'on pourrait appeler des pensées religieuses, mystiques, irrationnelles, archaïques, etc. Donc, on disait, oui, Socrate fait appel à son daimon, mais c'est une vieille pensée, c'est une scorie. C'est un reste, une survivance de trucs anciens que Platon dénonce lui-même. Donc, c'était la façon d'évacuer ça d'un objet de pensée de Socrate. C'est pas qu'on n'avait pas lu qu'il y avait le mot daimon. Voilà, pour dire que le jeu est un autre, on peut le penser à partir de Platon. Alors, on va venir à cela dans le temps qui reste, qui est le contexte platonicien, mais dans la cité grecque, la représentation courante que l'on a, la polis grecque, P-O-L-I-S, je rappelle, qui en grec veut dire la cité, qui a donné le mot politique et aussi le mot policier. Dans la cité grecque se pose la question de l'étranger, du rapport à l'étranger. Donc la représentation facile et courante qu'on en a, qui est fausse, en partie, qui n'est pas totalement fausse, je le montrerai soit aujourd'hui si j'ai le temps, soit la prochaine fois, on va dire qu'il y a un rejet de l'étranger, pour ne penser la cité que comme le même, que comme un espace homogène, où on est tous les mêmes. On montrera qu'en réalité, cette vision qui a prévalu jusqu'à aujourd'hui n'est pas fausse, mais elle n'est pas juste. C'est-à-dire que la question de l'étranger dans la cité sera une question importante pour les Grecs. Et une question avec une charge négative, mais aussi une charge positive. C'est-à-dire qu'à la fois, l'étranger, ça sera l'emmerdeur, mais à la fois l'étranger, ça sera important. Et c'est là qu'il faut sortir aussi de cette pensée mécaniste, d'une dialectique mécaniste au fond, qu'on pourrait résumer trivialement, c'est tout noir ou c'est tout blanc. Apprendre à penser, c'est apprendre aussi à introduire tout l'art de la photographie du noir et blanc, c'est qu'on joue avec le noir et le blanc, mais il n'y a pas que du noir et blanc, loin de là. Il faut apprendre à se détacher du noir et blanc, ce qui est au fond la pensée aussi informatique. La pensée informatique, c'est le courant passe ou le courant passe pas. C'est 0 ou 1. Voilà, donc on va revenir un peu plus tard là, sur le rapport des Grecs à l'étranger, mais il faudra voir en quoi c'est plus compliqué que ce à quoi on l'a réduit, et c'est un enjeu important. Alors, je voudrais rapidement, pour terminer de camper le décor de cette question du rapport à l'autre, du rapport à l'étranger, montrer un certain nombre d'enjeux actuels importants, centraux de cette question. Cette question soulève en effet des problèmes sociologiques, démographiques, des problèmes économiques, des problèmes politiques, ô combien, des problèmes psychologiques, psychiques, anthropologiques, culturels. Et puis, au final, des problèmes philosophiques et éthiques. Il faudra balayer tout ça pour montrer comment tout ça se tient, que le mot étranger, le nom étranger, est un nœud par rapport à des problèmes, des enjeux qui se déclinent sur des plans extrêmement différents. Balayons d'abord tout ça rapidement. Les problèmes démographiques, parce que c'est souvent par la démographie que les choses sociales, que les questions sociales et politiques apparaissent. C'est un déterminant majeur qu'on ignore souvent. Et je voudrais réhabiliter à coup la démographie comme discipline de savoir. Pour vous situer un exemple, autre que notre sujet, on parle sans arrêt du problème des retraites. Mais on peut montrer que le problème des retraites, c'est un problème démographique. Structurellement, c'est avant tout un problème démographique alors qu'on en fait d'abord un problème économique. Ce qui vient après, c'est-à-dire que l'économie, s'avère surdéterminée par la démographie en réalité. On le sait, mais on ne le met pas en avant dans la pensée de la question des retraites, par exemple, même si on le sait. Un des gros problèmes, c'est le déséquilibre entre ceux qui cotisent et ceux qui bénéficient de la retraite. C'est le problème des actifs, du rapport actif-non-actif. Mais le problème actif-non-actif, c'est un problème démographique. C'est un problème démographique au sens où, particulièrement en France, et en France, c'est beaucoup plus sensible que dans d'autres pays européens, c'est ça qu'il faut avoir en tête, il y a eu le phénomène après-guerre de ce qu'on appelait le baby-boom. C'est une croissance quasi exponentielle des naissances après 45-47 et jusqu'au milieu des années 50. Après, ça commence à décroître. Et dans les années 70, il y a eu un creux démographique. Donc, qu'est-ce que ça produit? Ça produit que ceux qui sont nés dans le baby-boom arrivent massivement à la retraite et ceux qui sont actifs sont des classes creuses, des classes d'âge creuses, c'est-à-dire sont peu nombreux. Ce qui laisse entendre, compte tenu que la démographie s'est rétablie en France, c'est-à-dire qu'il y a presque une solution mécanique, contrairement à ce qu'on croit, aux retraites. Et loin de moi de penser le mécanicisme, mais il faut reconnaître qu'il y a une solution presque mécanique. C'est-à-dire qu'en gros, ce déséquilibre considérable va peu à peu s'amoindrir et se rétablir. Parce qu'à nouveau, il y a depuis 10-15 ans, il y a des classes d'âge plus nombreuses que celles des années 70. Ce qui veut dire que quand les années 70 arriveront à la retraite, il y aura plus d'actifs proportionnellement. Il y a des projecteurs à projeter sur la question, notamment du fait qu'il y a besoin de beaucoup moins de travail non qualifié aujourd'hui qu'hier en quantité et que du coup ça crée des distorsions. Et que le gros problème qui se pose à nos sociétés, c'est que les gens qui ne sont pas du tout qualifiés d'aucune façon, ben, il n'y a pas trop de travail pour eux, ce qui est un autre problème. Et que le fait d'imaginer qu'il faut les rendre qualifiés bute sur quelque chose, qui est que tout le monde n'a pas, ça va faire hurler ce que je dis, mais tout le monde n'a pas la même capacité intellectuelle à acquérir les qualifications telles qu'on les pense. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens idiots. C'est-à-dire qu'il y a des zones où une intelligence s'exerce, mais c'est une intelligence qui ne peut pas être opérationnelle par rapport à l'acquisition des systèmes de qualification tels qu'on les pense. Et le problème du système scolaire, à partir de là, est énorme. Ce qui explique pour une bonne part l'échec du système scolaire, de la grande idée de l'éducation nationale, qui est qu'en gros, aujourd'hui, tout le monde atteint le bac, mais le niveau de culture n'a pas augmenté. C'est ça fondamentalement l'échec, c'est que le niveau de culture, de savoir n'a pas augmenté par rapport au temps où les gens s'arrêtaient à la fin du primaire, c'est-à-dire ou au mieux au moment du certificat d'études. Ça pose la question de la façon dont on pense l'égalité, qui est une grande idée, mais qui est une idée complexe à penser. Je reviens à la démographie comme enjeu, où la question de l'étranger est une question qui va devenir de plus en plus importante socialement, politiquement et donc éthiquement, philosophiquement. C'est que l'évolution du monde se traduit par un mouvement paradoxal, c'est-à-dire que d'un côté, la mondialisation tend à créer une forme d'homogénéité sociale, des modes de vie par exemple, à travers la poursuite, à travers la planète de ce qu'on a connu en France et en Europe au XIXe siècle, l'exode rural et l'urbanisation. Le monde s'urbanise de plus en plus. Et même les pays du Sud, les pays qu'on ne dit pas sous-développés, qu'on dit plus sous-développés, qu'on dit en voie de développement, s'urbanisent à une allure vertigineuse. Aujourd'hui, les plus grandes métropoles urbaines sont des villes du Sud. Mexico, Lagos, Shanghai, enfin, c'est les plus grandes conurbations. Et ça, ça résulte de phénomènes de migration interne. Alors, ce qu'on observe, c'est que les migrations internes, c'est les migrations internes à l'intérieur d'un même espace social, politique, c'est-à-dire à l'intérieur, pour dire vite, d'un même pays. Les migrations internes sont infiniment plus importantes que les migrations externes, entre parenthèses, beaucoup plus élevées. Et elles vont de pair avec l'urbanisation généralisée. Donc d'un côté, le paradoxe que je pointe, d'un côté, il y a une forme d'homogénéisation sociale, culturelle de la planète, adoption de même façon de penser, de même façon de vivre, de même mode de vie. C'est-à-dire que d'un côté, le même aurait tendance à triompher, mais d'un autre côté, la mondialisation crée de l'hétérogénéité. Hétérogénéité, c'est l'opposé d'homogénéité. Donc l'homogénéité, c'est un espace ou un être caractérisé par la loi du même. L'hétérogénéité, à l'inverse, hétéros, c'est l'autre, le différent, l'autre. C'est un espace marqué par l'autre, par l'étranger, par la différenciation. Donc ça se traduit par de l'hétérogénéité au sens où, phénomène de plus en plus amplifié dans les sociétés de la planète entière, il y a de la coexistence, de la proximité, de la cohabitation de populations différenciées. C'est un phénomène qui s'accentue de façon extrêmement importante. C'est-à-dire, il y a de plus en plus des populations dites étrangères qui vont cohabiter avec des populations dites autochtones. Ou des populations qui sont considérées par un groupe comme étant de l'autre, de ce qui n'est pas moi, ou de ce qui n'est pas nous, qui vont cohabiter avec des populations qui s'estimaient comme étant les mêmes, appartenant aux mêmes. Donc l'émigration interne joue un très grand rôle là-dessus, dans ces grandes villes qui se créent. Les tensions sociales, politiques qui existent sont en partie activées, déclenchées par le fait que ces populations rurales traditionnelles qui viennent du jour au lendemain habiter dans une ville, eh bien, ça crée un choc d'étrangeté et d'extranéité. Et on le sait un peu maintenant, mais en Chine, par exemple, les migrations internes des ruraux vers les villes, ça crée des gros problèmes, y compris des révoltes assez violentes et importantes de ces ruraux qui se retrouvent complètement exclus dans la ville. Alors, d'autre part, cette hétérogénéité, ce mouvement d'hétérogénéité au sein de l'espace homogène des sociétés est aussi dû par les migrations externes. C'est-à-dire les mouvements de population d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre. Et ces mouvements ont toujours existé. Depuis la Grèce antique et même avant, il y a toujours eu ces mouvements de population. La seule chose que l'on puisse constater, c'est que depuis quelques décennies, ça s'accentue. Ça s'accentue et ça devient de plus en plus une loi de grand nombre. Rentrons un petit peu dans quelques mesures du phénomène, parce que c'est important, on dit trop souvent tout et n'importe quoi. Ça s'accentue, mais ça n'atteint pas non plus des proportions menaçantes, contrairement à ce que certains discours laissent entendre. Même si ces discours sont nourris par le fait que ce phénomène s'accentue, qu'il y a une croissance des migrations extrêmement importante. Il y a eu une étude faite par l'ONU, en fait, des organismes liés à l'ONU, qui mesure les choses de façon assez précise, qui à la fois en montre l'ampleur et la relativité. Les populations migrantes, migrantes internationales, pas internes, ça représente en 2008 3% de la population mondiale. Alors, c'est très faible, mais en même temps, 3% sur 7 milliards, ça fait des flux importants en même temps. Et on estime que la population migrante internationale représente en valeur absolue à peu près 200 millions de personnes. C'est-à-dire il y a 200 millions de personnes identifiées comme des migrants internationaux. C'est-à-dire des gens qui ont changé de pays. L'étranger, par rapport aux citoyens ou à l'autochtone, ce qui différencie ces deux catégories, c'est qu'il y a de la frontière. Il faudra réfléchir sur la question de la frontière, qui est une question majeure et qui est nécessaire à prendre comme objet de pensée si on s'intéresse à la question de l'étranger. Mais sachant que les frontières, c'est toute forme de frontière. Donc effectivement, la distinction entre migrants internes et migrants internationaux, externes, suppose la définition de sociétés à l'intérieur d'espaces définis par des frontières nationales. Mais c'est une donnée qui n'est pas qu'arbitraire, qui est le résultat de l'histoire, des rapports politiques, des rapports de force politique, mais qui s'intériorise dans les consciences. C'est-à-dire que c'est aussi des frontières mentales. L'autre question qu'il faudra interroger, je la livre comme ça brutalement, il faudra peut-être ne pas considérer que la frontière, c'est que négatif. Il faudra aussi prendre sérieusement une positivité de la frontière. Ne serait-ce qu'en vertu de ce que j'ai dit tout à l'heure, l'étranger est nécessaire à la définition du même, de l'autochtone. Et la connaissance suppose la séparation entre ce qui est de l'ordre du même et ce qui est de l'ordre différencié de l'autre. L'opération de la connaissance est une opération qui consiste à faire des frontières. Donc, Ceci pour dire que c'est plus compliqué que là aussi une morale bien pensante qui consisterait rapidement à dire ah ben les frontières, je suis citoyen du monde. C'est en ce sens-là que aussi la notion est un peu angélique et creuse, ne donne pas trop à penser que la notion de citoyen du monde. Ça veut dire quoi au fond? Si on réfléchit 5 minutes, ça ne veut pas dire grand-chose. Précisons par rapport à ce flux migratoire de 200 millions de migrants internationaux. Les études toujours de 2008 précisent les choses. Alors, je le donne dans l'ordre décroissant d'importance. La mobilité la plus importante, mais de peu, c'est les flux sud-nord. Donc là, ça corrobore quand même le discours frileux, qui est que les pays du nord riches sont confrontés plus que les autres à des flux migratoires venant des pays du sud pauvres. En clair, ce flux concerne 62 millions de personnes en 2008, sur les un peu moins de 200. Mobilité sud-nord, de l'hémisphère sud vers les pays de l'hémisphère nord. Ensuite, alors de très proche, et ça enlève des idées reçues, le second flux, c'est les mobilités sud-sud, d'un pays du sud à l'autre. Et ça concerne, c'est quasiment égal, 61 millions de personnes en 2008. Alors, en particulier, dans ces flux sud-sud, un flux qui est parmi les plus importants quantitativement et qui est assez récent, c'est les flux des pays de l'Asie du Sud-Est vers les pays du Golfe Persique, vers notamment les pays pétroliers, Arabie Saoudite, Émirats du Golfe, etc. Et entre parenthèses, la condition pour le coût de vie des travailleurs philippins et autres, c'est une condition quasi d'esclaves. Donc quantitativement aussi important à 1 million près que celui nord-sud. Alors ce n'est pas que cet aspect-là. Dans les flux sud-sud, il y a aussi de plus en plus les flux, et moi je l'avais observé au Gabon, mais ça concerne beaucoup de pays africains, des Chinois vers l'Afrique. Et ça se développe de plus en plus, et c'est lié au fait que la Chine est en train de devenir le premier pays colonisateur pour des raisons économiques de l'Afrique actuellement. Je vous l'avais dit, je crois, une fois à propos d'autre chose, quand je suis allé au Gabon à Libreville, le premier restaurant où on m'a emmené, c'était un restaurant chinois. Cela dit, ce qui était drôle, par rapport au mouvement d'homogénéisation du monde, c'est que ce restaurant chinois faisait abstraction de l'extérieur. J'aurais pu vraiment croire que j'étais à Belleville, à Paris ou je ne sais pas où. Il n'y avait aucune différence, ni dans le décor de la salle, ni dans le type de plat servi. C'était les mêmes, aucun écart. Le troisième flux migratoire, qui quantitativement est un peu plus faible, c'est nord-nord, de pays du nord vers pays du nord. Donc ça concerne 53 millions de personnes. C'est par exemple les jeunes Français qui tentent leur chance au Québec, au Canada ou aux États-Unis aussi. Et enfin, le quatrième flux, alors là qui est significativement beaucoup plus faible, c'est les flux du nord vers le sud. Ce qu'on appelle les pays du sud, c'est plus large que l'hémisphère nord, c'est les pays du sud de l'Europe, en gros, de cette ligne-là. C'est par exemple tout ce qui est l'Afrique est considéré comme sud. Donc y compris le Maghreb, qui est pourtant dans l'hémisphère nord. Maintenant, ce qui est une donnée surprenante d'ailleurs, maintenant, il y a autant de migrantes internationales femmes que d'hommes en gros. Ce qui est une évolution assez récente, mais qui est une évolution qui est intéressante quant à la signification. C'est-à-dire que c'est aussi un signe de l'émancipation mondiale des femmes. L'effet ou la traduction n'est pas forcément la meilleure, mais le signe est incontestablement celui-là. Par exemple, les femmes africaines ne pouvaient jamais envisager de quitter leur famille et de pouvoir tenter l'aventure de venir dans un autre pays. C'était inenvisageable. Ça se développe de plus en plus. C'est vrai que ça reste souvent aussi des regroupements familiaux, mais pas seulement. Regardez entre parenthèses, en France, heureusement qu'il y a beaucoup de femmes africaines, parce que c'est elles qui fournissent la main-d'œuvre principale des gens que les Français de souche rechignent quand même à faire, des aides familiales, des aides ménagères, qui s'occupent du maintien à domicile des personnes âgées, etc. C'est incroyable le nombre de femmes d'origine africaine. Quelques autres aspects du problème, les pays d'accueil, quels que soient les flux. Le premier pays accueillant des flux migratoires, ce sont les États-Unis, de très loin. Ça a toujours été, c'est la culture qui fait quand même la grandeur de la société américaine, de ce qu'ils ont appelé le melting pot. Et il ne faut pas, malgré les problèmes qu'on observe aujourd'hui, et c'est une actualité brûlante de l'ostracisme des populations noires par rapport, par exemple, à la police, il n'en demeure pas moins. Parce que les Noirs, là, qui sont l'objet des tracas, c'est un euphémisme, hein, de la police, Ce n'est pas forcément des étrangers, ce n'est pas forcément des immigrants. La plupart sont des jeunes Américains qui sont nés aux États-Unis. Les États-Unis restent un pays de melting pot. Moi, j'ai été frappé par cela aux États-Unis, d'immigration récente. J'ai vu des Libanais francophones, des Sénégalais ou des Nigérians anglophones, des Asiatiques qui étaient Américains, mais d'immigration assez récente. Alors, ce n'est pas tous les États, mais c'est réparti sur tous les États-Unis, c'est-à-dire de la côte est à la côte ouest. Et y compris au centre, par exemple, je pense à des exemples précis, en Floride. Je ne parle pas des Latinos, la Floride intérieure. Alors c'est sûr que les États du centre, le Texas et autres, ce n'est pas forcément comme ça, ce n'est pas forcément les États les plus accueillants. Pour situer encore rapidement d'un chiffre, la France se situe au 5e rang mondial des pays d'accueil de flux migratoires, ce qui est important, hein. Après l'Angleterre, je donne quelques éclairages pour situer les enjeux démographiques de la question du rapport à l'étranger. Alors, un dernier chiffre qui est quand même important à situer parce que ça va nous donner un élément d'analyse. La population migrante internationale représente 9,5% de la population en moyenne, hein, des pays déindustrialisés, des pays les plus développés, 9,5%, alors qu'elle ne représente que 1,4% des pays autres, des pays en voie de développement, des pays pauvres, etc. Donc ça nous met sur une piste majeure. Si on s'interroge 2 secondes sur les facteurs des migrations contemporaines et qui éclaire pourquoi c'est un phénomène qui s'accentue et qui ne cessera de s'accentuer. C'est complexe, il y a plein de facteurs, mais ce qui est commun à tous les facteurs cause de l'immigration, c'est des phénomènes d'inégalité de territoire, d'inégalités structurelles de territoire. Et comme ces inégalités s'accentuent, on comprend pourquoi les migrations s'accentuent, sachant que tout ne se ramène pas à l'inégalité, mais l'inégalité joue un rôle déterminant, quel qu'il soit. Et je dirais que c'est une loi des sociétés humaines depuis l'Antiquité qu'il faut avoir en tête par rapport aux discours politiques, aux enjeux politiques, c'est que les phénomènes migratoires surdéterminent tout le reste. Les phénomènes migratoires surdéterminent tout le reste parce que leurs causes profondes sont des causes d'inégalité des territoires. Et de tout temps, quand se fait jour des inégalités de territoires marquées, alors on va voir le type d'inégalité, comme par un mouvement naturel, entre guillemets, j'aime pas le mot naturel, entendons-le dans un sens très simple et courant, ça produit des déplacements de population. C'est quelque chose de structurel, inéluctable, quasiment une loi physique, de physique sociale. Alors, quels sont les types d'inégalités qui favorisent les phénomènes migratoires? Il y a un premier type d'inégalité qui est incontestablement l'économie, c'est-à-dire les niveaux de revenus moyens des pays. C'est sûr que les pays les plus riches, dont le niveau de vie est le plus élevé, créent un appel d'air. Ça, c'est une évidence, mais qui a complexifié, hein, néanmoins. Parce que ça se double aussitôt d'un second facteur où on va réintroduire la politique, qui est le degré d'ouverture de ces sociétés. Plus une société est ouverte, accueillante, hospitalière, plus effectivement ça encourage l'appel d'air, les flux migratoires. Donc là, il y a une inégalité dans le degré d'hospitalité des sociétés. Mais ce n'est pas le premier facteur, encore une fois, parce qu'on peut construire des murs, les gens passent par-dessus les murs. C'est toujours ce qu'il faut savoir. Autre facteur migratoire qui renvoie aussi structurellement à des inégalités, le niveau d'éducation. Mais c'est plus compliqué qu'on le croit. Ce n'est pas simplement l'inégalité entre des pays sans aucune éducation et des pays à grande éducation. C'est ce qui a produit l'impulsion migratoire croissante des pays du Sud. Ce n'est pas le fait qu'ils étaient à degré zéro d'éducation, c'est que se développe dans ces pays-là une éducation et que le niveau d'éducation augmente. C'est-à-dire que des pays du Sud, il résulte que plus les gens sont éduqués, plus ils aspirent et ils ont les moyens d'aller vers les pays les plus développés du Nord. Ce qui veut dire que, contrairement à certains discours, les migrations, les flux sud-nord, ce n'est pas simplement des pauvres analphabètes sans aucun savoir, c'est des gens qui ont de l'éducation et de la compétence. Ce qui veut dire qu'on comprend à partir de là Je ne sais plus quel auteur, c'était un politique démographe, non, économiste, qui a écrit récemment un livre dans un titre provoquant et qu'on ne comprend pas au pied de la lettre, L'immigration, une chance pour la France ou une chance pour l'Europe. Ça s'appuie notamment sur cette dimension-là. C'est que c'est un apport de populations de plus en plus éduquées, même émanant des pays du Sud. L'inégalité, elle se joue, mais dans un système dynamique d'élévation du niveau d'éducation. C'est-à-dire qu'il y a un différentiel qui se maintient, culturel et éducatif, mais ce différentiel est dans une dynamique de hausse générale. Mais on le voit dans les phénomènes migratoires internes. C'est quand, même à l'échelle d'une ville, une ville qui a une offre culturelle de haut niveau est une ville qui provoque un appel d'air de population. C'est-à-dire que les populations de haut niveau culturel vont migrer dans des villes d'offres culturelles élevées. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs de très bonnes politiques urbaines, municipales ou d'agglomération, de favoriser l'offre culturelle la plus grande et intense. Ça a des retombées démographiques et économiques pour le développement de la ville en question très importantes. Parce que, par exemple, les gens très qualifiés à qui restent des choix possibles de leur lieu de vie, ils vont favoriser les villes où il y a une offre culturelle et un niveau culturel très élevé. C'est ce qu'un certain nombre de mairies ou d'agglomérations ont compris. J'ajouterais aussi, quand même, il faut terminer là-dessus, les inégalités environnementales qui deviennent croissantes. Climatiques, mais dans les conséquences environnementales. C'est-à-dire que les pays qui deviennent de plus en plus marqués par une rarification de ressources, quelles qu'elles soient. Phénomène de désertification, par exemple, soit parce qu'il y a trop de pluie et d'inondations, soit parce qu'il y a une sécheresse, forcément vont être des pays réservoirs de migration, par survie, par nécessité, vers les pays dont l'environnement est plus favorable. Et ça se creuse de plus en plus entre les pays dont l'environnement est de plus en plus hostile pour la vie sociale humaine et les pays dont l'environnement reste très hospitalier. Inévitablement, ce différentiel accentue des flux migratoires importants. Et il y a la raréfaction, par exemple, aussi, qui est un phénomène de l'eau qui va se développer. L'inégalité de la ressource eau accentue d'ores et déjà les phénomènes migratoires. Et ça, on est au début de ce phénomène. En dehors des inégalités, qui sont les facteurs premiers de l'augmentation des flux migratoires, il faut ajouter, ce qui va dans l'autre sens, la généralisation des systèmes de communication et d'information à l'échelle de la planète. C'est que les gens sont de plus en plus, où qu'ils habitent, informés de ce qui se passe ailleurs. Et ça, ça accentue les flux migratoires. Même si, ajoutons cela, l'information ne supprime pas le phénomène de construction imaginaire de ce qu'est l'autre. Donc, par exemple, si l'information était mécanique et transparente, les Africains, vu ce qui est offert à bon nombre d'Africains en France ou en Europe, cesseraient de vouloir venir en France en croyant que c'est le paradis. Donc, l'information joue un rôle essentiel, mais se superpose à l'information la construction imaginaire de ce qu'est l'autre. C'est pour ça que, entre parenthèses, tous les systèmes de prévention qui sont basés sur la communication et l'information échouent, parce qu'ils font comme si c'était parfaitement transparent entre l'émetteur et le récepteur, ce qui n'est pas transparent. Pour l'immigration africaine vers la France, c'est le même phénomène.